Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée, et on se retrouve pour un nouvel épisode très spécial, puisque cette semaine, on est délocalisé en altitude pour la 27e édition du Festival de films de comédie de l'Alpe d'Huez. Donc, tous les soirs, moi, j'organise ma contre-soirée ici, entre tempête de neige et remontée mécanique en panne, pour vous emmener en immersion et vous partager des anecdotes, des story time, des discussions, des rires avec plein d'invités. On se fait un épisode par jour pendant une semaine, c'est un très grand luxe, et du coup, je vous laisse avec celui d'aujourd'hui, en piste.
Bonjour, bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Il est 2h du matin.
Enchanté.
Merci d'être venu alors qu'il est extrêmement tard. Toi, t'es là pour présenter le film documentaire Golo et Richie.
Exactement, mais qui est un film qui s'appelle Golo et Richie, qui est réalisé par Ahmed Hamidi et Martin Fougerolles, dont je suis extrêmement fier.
Il sort quand en salle?
Il sort le 3 juillet.
Ok.
Ouais.
Bon, bah tout le monde note dans son calendrier. Il faut vraiment se le noter en avance parce
non,
que.
Non, mais surtout, le film est magnifique. Le film est beau, il est moderne, il est sensible, il est drôle. Moi, c'est des gens que j'ai rencontrés. Tu vois qui c'est?
Golo Richie. Bien sûr, ils viennent d'Internet.
Ouais, ils viennent d'Internet. Ils ont. Moi, c'était dans le premier confinement. Moi, j'avais un peu kiffé. Même si les gens aujourd'hui, en fait, l'assument pas. Moi, j'avais un peu kiffé. J'étais avec ma femme, mes enfants.
L'ensemble aussi.
Et le deuxième, moi, je devais sortir à l'époque Bac Nord et Mandibule. Et finalement, en fait, il y avait eu le deuxième confinement. Donc, les films n'étaient pas sortis. Et pendant 2 mois, dans la rue, j'avais les affiches de mes films. Et j'étais un peu cafard. En plus, le premier. Ouais, et c'était le deuxième surtout.
Catastrophe. Après, le deuxième, il était faussement sévère. C'était pénalisant.
Ouais, il y avait un côté, j'étais un peu down. Et je tombe sur Golo et Richie. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas ri, pleuré, parfois d'émotion, et que j'avais trouvé qu'ils avaient une relation amicale extraordinaire. Et je me suis dit, putain, je veux faire un truc avec ces gars. J'en parle à mon pote Ahmed Hamidi, qui a écrit Le Grand Bain, qui a écrit le prochain film de Gilles Lelouch, L'Amour Ouf, qui a été 10 ans auteur au Guignol. Et je lui dis, je veux faire un truc avec ces gars. Et je les contacte sur Instagram. Je sais pas si c'est trop long, hein, tu me dis.
Pas du tout.
Ah non, d'accord.
Prends
et je les contacte sur Instagram, et là, il y avait plein de gens qui les avaient contactés. Plein de plateformes, plein de trucs.
Ça veut dire qu'à cette époque, ils se détachent complètement de ce qui se fait parce que, comment toi, tu te dis, eux, je vais faire un truc avec eux.
C'est eux, en fait, c'est leur personnalité. Et en fait, il y avait plein de gens qui leur avaient. Plein de sites internet, plein de trucs qui leur avaient proposé, en fait, de leur donner des caméras, de continuer à faire ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils savaient faire, en fait. Et ça restait dans la cité. C'est vrai qu'avec Ahmed, nous, on s'est dit, putain, nous. Ce qu'on a envie de faire, c'est de les faire sortir. Et Golo, il a un vrai Richie, il est qui est autiste, qui a une passion pour le vélo, qui passe sa vie en vélo. Et bah Ahmed a eu l'idée de, on va acheter un tandem et on va leur faire Marseille-Grigny. Et donc on est parti de Marseille et jusqu'à Grigny. Et ça a été une aventure extraordinaire.
Grigny qui est où?
Grigny qui est dans le 91.
Ok. Qui est
une ville où j'ai été qui est très à part, je pense, parce que c'est vraiment la banlieue, mais en même temps ils sont à 5 minutes de la campagne et en même temps ils sont trop loin de Paris, et donc il y a c'est d'ailleurs la ville la plus pauvre de France. Et quand j'ai rencontré ces gamins, parce que ça y est, moi je suis vieux, j'ai 39 ans, donc
ils ont quel âge?
Eux ils ont 33 je crois et 32 je crois.
Ah, et toi t'es en mode c'est des gamins
C'est des gamins, ouais, parce que c'est des jeunes. Ça y est, moi je travaille depuis que j'ai 18 ans, donc peut-être que ça
le film il est là. Moi je veux que tu me dises à quel moment toi ta carrière elle commence, que tu me fasses ta biographie dans un temps record. Mais
allez, dans un temps record, moi je suis un mauvais élève. Je suis pas bon en cours, je pense que j'ai du mal à m'intéresser à ce qui m'intéresse pas. J'aimais l'histoire, j'étais pas bon en langue, et je pense que j'étais pas mais j'aimais le cinéma. Après, j'étais pas non plus. Moi, j'ai des potes qui sont bien plus cinéphiles que moi. Moi, j'étais un mec qui allait au cinéma.
Ok.
Pas, je vais.
T'avais pas une culture de cinéma.
Non, je m'attais pas spécialement en fait les films qui étaient les vieux films. J'allais au cinéma.
L'actualité.
Et j'ai toujours eu ce désir de cinéma, mais sans savoir en fait ce que j'allais y faire. Moi, j'ai une famille. C'est ça, c'est que donner des conseils, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut aussi expliquer que moi, j'ai eu la chance aussi. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai eu les codes parce que j'ai un père qui est réalisateur. J'ai un beau-père qui est réalisateur, j'ai une mère qui était monteuse, donc okay, du coup c'est vrai que j'ai baigné dans ça. Après je peux te citer plein d'enfants d'eux qui font rien de leur vie, hein, donc du coup je me retire.
Pas, mais on les a.
je me retire rien, mais
ouais.
Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance là. Okay. Et quelqu'un que j'admirais beaucoup qui était le producteur de mon beau-père, qui s'appelle Charles Gassot, qui était un des plus gros producteurs des années 90 avec Claude Berry. C'est lui qui a produit tous les films La vie est un fleuve tranquille, Tati Daniel, Le Bonheur Prêt, La Cité de la Peur, et le premier film, Le Goût des Autres, c'est Tanguy.
La liste est immense.
Ouais, c'est un immense producteur et qui avait un rapport au talent. Donc j'ai fait un stage chez lui et je me suis dit, je veux être producteur. Donc lui, il avait compris que je ne ferais pas d'études. Ouais. Parce qu'à l'époque, il m'avait dit, il y a deux producteurs, il y a ceux qui font HEC et ceux qui connaissent le terrain. Vu ton profil, tu n'iras pas HEC, fais du terrain. Et donc je suis allé sur le terrain et j'étais stagiaire régie, stagiaire mise en scène, pour essayer de comprendre en fait voilà comment ça se passait. Parce que moi, ce que j'aimais dans la production très tôt, c'est que de pouvoir avoir plusieurs projets en même temps. Et surtout, moi, j'ai jamais eu cette velléité, et je l'ai toujours pas 20 ans plus tard, de réalisation ni d'écriture. Mais de... On est sur un podcast, on peut dire, je suis un bandeur de réalisatrices et de réalisateurs. Moi, c'est toujours ça, en fait, c'est de comprendre, en fait, rencontrer des gens passionnants qui ont des histoires à raconter et de comprendre ce qu'ils veulent et essayer de les pousser au maximum de leurs exigences. Voilà, ça, c'est mon métier. Et c'est vrai que j'avais la possibilité, par ma famille, d'aller chez Charles Gassot, de peut-être aller même chez Claude Berry en stage. Et c'est vrai que je me suis dit... J'ai envie d'aller dans une boîte, dans une petite boîte de prod. Et je lis un article, parce que moi je lisais tous les vendredis Le Film Français et le Pariscope le mercredi à l'époque, parce qu'ils mettaient toutes les entrées. Et je lis un article sur Alain Attal et Guillaume Canet, qui avaient gagné le duo Révélation pour Mon Idole. Et ils racontent à l'époque qu'ils lancent leur prochaine production, qui est le premier film de Gilles Lelouch et Tristan Rouet, qui s'appelle Narco. Et surtout, que je ne connaissais pas. Et ils disent que le premier rôle, c'est Guillaume Canet et Benoît Poulvord. Et à l'époque, moi, je suis un immense fan de Benoît Poulvord. Et je me dis, c'est là-bas que je veux bosser. Et rebondissement par rebondissement, le soir où je me dis ça, j'arrive avec un pote qui s'appelle Rudy Rosenberg, qui est aussi réalisateur, qui a fait un film qui s'appelle Le Nouveau, qui est extraordinaire. Et on est à La Palette, qui a un café du 6e arrondissement. Et je suis en train de lui dire de « Putain, j'ai envie d'aller dans cette boîte et tout. » Et là, ils arrivent et ils se posent au café. Et là, il y a Gilles, Guillaume, Alain et tout, ils sont là. Je vais les voir et je dis, je veux être stagiaire et tout. Ils me bazardent un peu. J'avais 18 piges, tu vois, 19 ans.
Ça n'existe pas dans la vraie
ouais.
vie.
Et ils me bazardent un peu. Et ils font, ok. À l'époque, il n'y avait même pas de mail. C'était genre, donne-nous ton CV.
Fax,
et je vois que ça passe pas trop, tu vois, en même temps normal. Ouais. Et lundi, il y a une femme qui s'appelle Frédéric Moidon, que j'adore, qui était directrice de casting, qui aujourd'hui qui est agenteux. Et elle me, à l'époque, elle était directrice de casting. Elle me dit, je commence un casting, j'ai besoin d'un assistant. Je sais que c'est toi, tu veux faire plus de la prod, mais ça peut être intéressant dans ton parcours. Je dis, franchement, moi, non, je suis pas trop haut, j'ai tout. Et je dis, c'est quoi le projet? Elle me dit Nicole Garcia, et que j'adore Nicole, mais c'était pas spécialement mon cinéma et tout. Et elle me dit, mais c'est des producteurs, c'est une boîte de prod, c'est une jeune boîte de prod qui est cool, qui s'appelle les Productions du Trésor. Et je dis, je suis là lundi. Et je suis arrivé lundi. Donc, du coup, je suis arrivé aux Productions du Trésor par une porte très différente. C'est en tant que stage assistant casting. Mmh. C'était une toute petite boîte de prod. Donc, quand on ouvrait la porte, on prenait le café ensemble. Je sympathise avec Alain Attal, qui était le grand patron. À la fin du casting, il me dit, tu sais quoi, tu vas pas arrêter, tu vas réaliser le making-of du film. Plus mauvais making-of de l'histoire du cinéma.
Ah ouais.
Mais ça m'a permis de
objectivement, ça n'a pas de...
c'est une grande merde.
C'est bien tout net avec toi-même.
Mais le making-of.
Le making-of était vraiment pas ouf.
Mais par contre, ça a été 3 mois de tournage où j'ai pu discuter et sympathiser avec Alain. Et à la fin, il m'a proposé de rentrer dans sa boîte en tant que stagiaire café. Puis après, je suis devenu deuxième assistant, puis premier assistant, puis responsable de projet, puis jusqu'à la fin, le Graal. producteur exécutif, en gros, c'est que tu produis des projets, okay. mais t'es salarié.
Okay.
Tu travailles pour la boîte de quelqu'un qui était les
producteurs. Tu prends pas trop de risques.
Je prends zéro risque le vendredi. J'étais en week-end et le lundi, je revenais.
Okay.
Jusqu'au jour où, en fait, j'ai fait les petits mouchoirs, j'ai fait seul tout pour lui et j'ai eu envie de monter ma boîte en 2013, il y a 10 ans. Et j'ai monté ma boîte, non pas parce que j'avais envie de prendre mon indépendance, mais c'est parce que, en fait, parfois, t'as envie de faire tes projets à toi.
Ouais.
Et j'avais des réalisateurs que j'avais envie de développer. Et j'ai commencé par un premier film qui s'appelle La Marche, qui n'a pas du tout marché. Voilà, on a commencé comme ça. Après, j'ai fait le premier film de Sarah Forestier, qui a été, en termes de production, très compliqué. Mais au moins, je regrette rien parce que j'ai eu le sentiment de devenir réellement producteur à la fin de ce projet.
Comment t'estimes qu'un projet est très compliqué en termes de production ?
Quand tu signes le projet et que ta femme est pas enceinte et que t'es encore en train de te prendre la tête avec la réalisatrice et que tu tiens la main de ta fille pour l'emmener à son premier jour d'école. Là, tu dis, c'est qu'on a passé beaucoup de temps sur ce projet. Et c'était très long, mais je regrette rien. Et après, j'ai rencontré Jeanne Herry, avec qui j'ai fait Elle l'adore, avec Alain Attal, avec qui on a fait aussi Pupille, Je verrai toujours vos visages, qui est sorti cette année. Après, avec Gilles, on a fait Le Grand Bain. J'ai produit le film de Romain Gavras, Le Monde est à toi. Cédric Jiménez, Backdoor Novembre. J'ai produit le film de Quentin Dupieux, dont Yannick, le dernier. Non, j'en oublie, Le Chant du Loup.
Estomaqué, voilà. Mais la liste est immense.
Franchement, putain, je suis trop fier.
Est-ce que t'arrives? Ouais, tu te dis que t'es fier de
toi. Je suis trop fier de moi.
Ah, c'est excellent.
Non, mais en plus, je suis très fier de moi parce que je suis toujours très fier de moi. Après, le cinéma, c'est vraiment. Je fais des signes, mais on est dans un podcast. Mais
il lève la main de haut en bas.
De vagues. Non, mais on sait que parfois ça marche, parfois ça marche moins. Mais, ouais. Et qu'il y a un truc qui est très difficile, qui est le plus compliqué dans le cinéma, c'est que le moment où toi, tu vas venir me parler, me pitcher une histoire, t'as envie de développer ça, on est en 2024. Et entre l'écriture, le financement, la prépa, le tournage et la promo, la bonne idée, elle va sortir sûrement en 2026-2027. Et est-ce que ton idée 2024, c'est toujours une bonne idée,
Toi, tu dois être visionnaire et te projeter comme ça.
Ou en tout cas, de croire en des talents. Moi, de toute façon, c'est ce qui me fait... c'est ce que j'aime dans ce métier, ce qui me fait vibrer, c'est le talent des autres. Et je pense que j'ai le talent de reconnaître le talent des autres et de les accompagner, que ce soit des acteurs, que ce soit des réalisateurs, des réalisatrices. Non, j'ai beaucoup de chance. Après, la chance, ça se crée.
Bien sûr.
Et surtout, c'est pas parce que t'as la chance. Il faut savoir la saisir, la chance. Et je pense que j'ai eu cette chance de rencontrer les bonnes personnes. Et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de succès, mais c'est la liberté d'aller chez des financiers qui souvent... peuvent être un peu formatés et tu leur dis non, mais faites-nous confiance, on va faire un film de 2 heures où il y a 50 minutes, c'est des dépressifs qui ont 50 ans et on va faire un succès, on fait 4,5 millions et le film Je verrai toujours au visage, je sais pas si tu l'as vu, c'est un film magnifique.
Il est exceptionnel.
Parce que tout le monde nous dit aujourd'hui ah ouais, mais c'était sûr que ça allait cartonner. Le premier dialogue, c'est quand même, j'avais la première fois que je me suis fait sodomiser, j'avais 13 ans et c'était mon grand frère. J'ai connu plus populaire que. Mais. C'est avec des sujets intelligents, en respectant les spectateurs, mais en étant tourné aussi. Moi, j'aime faire des entrées, mais non pas parce que pour la raison pécuniaire, c'est parce que c'est comme quand toi, tu fais un podcast, t'as envie qu'il soit écouté. Quand tu fais un film, t'as envie qu'il soit... Surtout quand t'as la chance de travailler avec des gens aussi talentueux que Jeanne Herry, qui est une femme brillantissime, intelligente. Et voilà, il y a plein de nouveaux projets. Il y a L'Amour Ouf, qui est un film extraordinaire, sublime, qui sort le 16 octobre, qui est le prochain film de Gilles Lelouch, avec François Civil, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Mallory, Fabre, Poulvord, Zadie, Quenard, Chabat, Le Clou, Elodie Bouchet, The Film est exceptionnel. On a fait aussi l'adaptation de Leurs Enfants Après Eux, de Nicolas Mathieu, qui a un concours de 2018 avec les frères Boukarma, avec Paul Kircher dans le premier rôle, qui est une bombe atomique. Premier film sur l'esclavagisme aussi, plein de comédies. J'ai aussi produit au film. C'est ça aussi qui est marrant quand t'es producteur, c'est que tu fais Je verrai toujours vos visages, tu fais un Quentin Dupieux, et après tu vas aussi t'amuser avec des jeunes, parce que moi j'adore être avec les jeunes et je viens de faire Nouveau Riche sur Netflix.
Bien sûr. T'as produit Nouveau Riche ?
Ouais, c'est moi qui ai produit Nouveau Riche. Et tu sais,
ça ne t'arrête jamais.
De se balader dans plein d'univers, donc c'est ça la chance. Et
ouais, tu kiffes quand même.
Et on kiffe notre tête. Mais ouais, on a trop de chance. Et c'est tellement la merde à côté que ça serait indécent de pas profiter de ce que moi, nous, on vit. Parce que oui, il y a beaucoup de travail, mais. mais on est quand même des privilégiés.
Bah franchement là tu m'as construit un truc tout seul, t'es excellent. Voilà. Ta diction est parfaite.
Ah, voilà.
Malgré tout l'alcool
malgré
que
l'alcool,
tu as consommé.
Voilà, bah, parfait.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'être venu. Bah, amuse-toi bien.
Ouais, à bientôt.
Tarde pas trop à aller te coucher.
Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Vive le cinéma, vive le rire et vive le podcast. Je vous embrasse, que ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.